Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de pouvoir encore ouvrir ensemble ta parole. Et nous nous tenons devant toi, oui, comme des enfants, mais aussi comme des mendiants qui attendons tout de toi. Et nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans le secours de ton Esprit Saint. Mais comme ton Esprit habite en nous, eh bien nous croyons que tu veux parler au plus profond de nos cœurs, nous montrer le chemin de la vie éternelle, nous montrer aussi que nous pouvons te faire une entière confiance dans nos vies, parce que tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre comme notre souverain sacrificateur qui règne maintenant avec toi dans le ciel et qui exerce son ministère constamment en notre faveur, en faveur de ton peuple. Seigneur, permets-nous d'avoir des oreilles attentives, que nous ne soyons pas pris par toutes sortes d'artifices en écoutant ta parole, mais que nous puissions être tout simplement recueillis devant toi. Nous te louons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux et nous lisons le 8e chapitre en entier. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, Il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Il y a 15 jours, nous avons terminé la première partie de notre épître et on a juste entamé la deuxième. La première partie, c'était donc les chapitres 1 à 7 dans lesquels l'auteur s'était appliqué à nous présenter le médiateur de la Nouvelle Alliance. Et qui est-il, ce médiateur? Il n'y en a qu'un seul. Et il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces premiers chapitres parlaient avant tout de notre Seigneur comme le Fils de Dieu. Oui, ce Jésus, le fils de Marie et de Joseph, qui a vécu parmi les hommes, n'était autre que l'envoyé de Dieu, son Fils bien-aimé, la parole qui a été faite chair pour venir habiter parmi nous. Et c'est lui, le Fils, qui a révélé Dieu, le Père. Dans ces 7 premiers chapitres, nous avons vu successivement Jésus, le Fils, comme supérieur aux anges, mais abaissé temporairement en dessous d'eux, pour qu'il puisse devenir le sauveur de ses frères, notre sauveur. Ensuite, Jésus, fidèle sur sa maison, d'une fidélité semblable à celle de Moïse, mais pourtant bien supérieure à lui. Parce que Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple hébreu dans le repos, ce que fera le Seigneur Jésus pour tous ceux qui s'attachent à lui par la foi et le suivent dans un même chemin d'obéissance. Puis dans les chapitres 4 à 7, Jésus en tant que notre souverain sacrificateur n'est pas n'importe lequel. S'il y avait sans aucun doute de grandes similitudes avec le sacerdoce lévitique, le Seigneur Jésus, qui n'était pas de la tribu de Lévi, tenait en conséquence son sacerdoce non pas selon le principe charnel, par succession de père en fils, mais il le tenait de Dieu lui-même. À la ressemblance, comme nous l'avons vu, à la ressemblance de Melchisédek. Donc Jésus a été fait sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que tous les sacrificateurs de l'ordre d'Aaron sont morts. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a fallu un grand nombre de sacrificateurs, un grand nombre qui se succèdent sous l'Ancienne Alliance. Les chapitres 4 à 7 nous ont fait la démonstration de ce que voulait dire être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Un sacerdoce unique, parfait et éternel. Aujourd'hui encore, nous bénéficions de ce même sacerdoce qui appartient exclusivement à notre Seigneur Jésus. C'est lui le seul prêtre de l'Église, le seul dont nous ayons besoin, le seul qui nous assure la paix avec Dieu, qui nous permette de connaître l'amour de Dieu, parce que c'est le seul qui est fait et qui continue de faire tout ce qui est nécessaire à notre salut. Alors, si cette première partie nous a permis, pour ainsi dire, de faire connaissance avec notre souverain sacrificateur, la deuxième partie de l'épître, qui commence avec le début du chapitre 8, va nous permettre de comprendre son œuvre en détail. C'est ce que nous allons faire en nous plongeant dans l'œuvre médiatrice de notre Seigneur Jésus jusqu'au verset 18 du 10e chapitre. Alors il est évident que pour la compréhension de ce que nous avons vu dans les prédications précédentes, il a fallu qu'on aborde déjà certaines choses que nous allons voir depuis aujourd'hui plus précisément. C'est comme je vous le disais la dernière fois, il faudrait pouvoir parcourir et comprendre 3 ou 4 chapitres à la fois pour que tout tienne bien ensemble dans notre esprit. Et comme ce n'est pas possible, alors il est nécessaire de revenir plusieurs fois sur les mêmes choses. Mais bon, au moins, comme ça, petit à petit, ça rentre. Deuxième partie, donc, l'œuvre médiatrice de la Nouvelle Alliance. Pour commencer cette nouvelle partie, nous allons d'abord redire quelques mots à propos des deux premiers versets que nous avions vus la dernière fois. Et ensuite, comme on l'avait aussi fait la dernière fois, nous allons gentiment avancer dans le texte en essayant de commenter sans trop nous étendre. Je dis bien en essayant, ce ne sera pas toujours possible. Et encore une fois, dans un souci de garder bien tout ensemble, une vue d'ensemble. Donc, versets 1 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. En fait, ces deux premiers versets font le joint entre les deux premières parties de l'Épître. Ils sont à la fois une sorte de résumé de ce qui précède et le préambule de ce qui va suivre. C'est un peu comme si l'auteur disait « Voici ce que nous avons appris jusqu'ici au sujet de notre souverain sacrificateur. Et voilà maintenant ce que nous allons apprendre de son œuvre médiatrice. La supériorité de ce sacerdoce-là sur celui de la première alliance. » Et pour nous en parler, l'auteur va d'abord souligner le fait que s'il y a changement de sacerdoce, donc un changement dans l'œuvre de médiation, il y a aussi changement de sanctuaire. Le sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où s'exerce le sacerdoce, où s'exerce cette médiation entre Dieu et les hommes. Et comme il y a changement de sanctuaire, il y a aussi changement de culte. Et par conséquent, encore, une différence significative en ce qui concerne les victimes offertes en sacrifice. C'est donc tout ça que nous allons voir depuis aujourd'hui. Mais avant, revenons brièvement, comme je l'ai dit, sur ces deux premiers versets, et je parlais de résumé. Un résumé ou une synthèse dans laquelle l'auteur souligne quelque chose qui est capital pour notre salut, qui est donc très important pour notre compréhension de l'Évangile. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que le souverain sacrificateur dont il était parlé dans les chapitres précédents, c'est celui-là qui est le nôtre. Pas un simple homme mortel, comme ils étaient tous dans l'ancienne alliance, mais le Fils de Dieu lui-même. Dieu fait homme, qui s'est donné lui-même en sacrifice pour nous, mort sur la croix pour nous sauver et ressuscité pour notre justification. Il vit éternellement auprès du Père. Et comme notre souverain sacrificateur est assis à la droite du trône de la majesté divine, comme le dit notre texte, ça signifie qu'à la fois il règne avec Dieu son Père et qu'à la fois il intercède continuellement pour son Église, pour tous ceux qu'il a efficacement rachetés par son sang précieux. C'est lui, Jésus, le ministre du sanctuaire céleste. C'est lui qui a reçu de Dieu le sacerdoce éternel du véritable tabernacle, c'est-à-dire du véritable temple. Et quel est-il ce véritable temple? Ce ne sera plus jamais un temple de pierre fait de main d'homme, ni bien entendu une tente comme l'était le premier tabernacle dans le désert. Non, le véritable tabernacle a été dressé par le Seigneur. Le véritable tabernacle dont Jésus est l'architecte et le bâtisseur. Ce tabernacle-là est un temple composé d'une multitude de pierres vivantes. Chacun nous sommes tout à la fois pour notre compte et par l'Église rassemblée le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel avait pour ainsi dire fait sa demeure dans le temple de Jérusalem. En tout cas, c'est là que les Israélites venaient rencontrer leur Dieu. Et bien avant, l'Éternel avait commandé à Moïse de lui faire un sanctuaire. Exode 25:8. Donc ce tabernacle dont nous parlons, la tente d'assignation, Dieu lui avait fait fabriquer cette grande tente aux toiles et aux couvertures épaisses. D'ailleurs, des gens ont essayé, avec les données bibliques, d'en évaluer le poids, et ils sont arrivés à plus de 50 tonnes pour tout le matériel qu'il y avait pour la tente d'assignation. Donc un tabernacle, mais pourquoi faire ? Pour que Dieu habite au milieu de son peuple durant la traversée du désert, après qu'il ait été délivré de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Habiter au milieu d'eux, dans le lieu très saint, à l'endroit où devait être déposée l'arche du témoignage, recouverte du propitiatoire. Vous savez, avec les deux chérubins d'or qui étendaient leurs ailes comme ça sur le propitiatoire de l'arche. C'est exactement là, à cet endroit, que le souverain sacrificateur se rendait une fois par année, une seule fois par année. Aujourd'hui, les juifs pratiquants continuent à penser que l'esprit de leur Dieu se trouve à l'emplacement du dernier temple, c'est-à-dire de l'autre côté, en fait, du mur des lamentations. C'est pour ça qu'ils viennent tous à cet endroit pour prier, et lire la Torah, et introduire entre les énormes pierres du mur des prières écrites sur de petits bouts de papier qui s'insèrent dans les fentes. Mais que dit le Nouveau Testament ? Parole de Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » J'entrerai chez lui. Et puis encore 2 Corinthiens 6, 16. « Quel rapport, dit Paul, y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et ça, c'est tout à fait une référence à l'Ancien Testament, hein, comme je viens de dire. Je marcherai au milieu d'eux. Quand il y avait la tente d'assignation, mais maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le ministre, alors, le souverain sacrificateur de ce temple-là, c'est notre Seigneur Jésus, le roi des rois, celui qui sauve éternellement tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Eh bien, passons maintenant à la suite, et nous sommes donc au troisième verset. Nous allons lire les versets 3 à 6, que je commenterai brièvement à mesure. Hébreux, chapitre 8, verset 3. « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci, que le souverain sacrificateur, ait aussi quelque chose à présenter. » Ce verset parle bien de notre Seigneur. Et donc, comme tous les souverains sacrificateurs, Jésus aussi a dû présenter quelque chose à Dieu. Vous vous rappelez peut-être que nous avions dit qu'avec le Christ, la loi avait changé. C'était dans Hébreux 7, 12. Elle a changé, mais comme on l'avait dit, il n'en demeure pas moins plusieurs similitudes. Alors ici, c'est évident. Si les sacrificateurs de l'ancienne alliance ont présenté à Dieu des animaux dont on répandait le sang, notre Seigneur, ce qu'il a présenté à Dieu, c'est son propre corps, sa propre vie, en sacrifice parfait sur la croix. Verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là, donc sur la terre, sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Pourquoi le Seigneur Jésus ne serait-il pas sacrificateur s'il était sur la terre? Nous l'avons dit plusieurs fois. Premièrement, parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi et qu'il serait donc exclu du sacerdoce. Et deuxièmement, parce que son sacerdoce à lui, à notre Seigneur, ne dépend pas de la loi de Moïse, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, de l'ordre d'Aaron, puisque Jésus a été déclaré par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 5. Ceux qui présentent les offrandes selon la loi, donc les sacrificateurs de l'ancienne alliance, célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors ici, on a une référence au livre de l'Exode, chapitre 25, verset 40, quand Moïse a reçu de la part de Dieu les directives pour la confection du tabernacle et de tous les ustensiles du culte. L'Éternel lui a dit, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, il n'a pas vu un modèle sur la montagne. Ce n'est pas sur la montagne qu'il y avait le modèle. Mais quand Moïse était sur la montagne, il a vu le modèle au ciel que Dieu lui a montré. Moïse a donc reçu la vision de ce qu'il avait à faire. L'Éternel ne lui a pas remis un plan entre les mains, mais lui a montré en esprit ce qu'il devait faire. Et forcément, ce qu'il a reproduit sur la terre n'était que l'image de ce que Dieu lui avait montré. Ce n'est pas le contraire, comme on pourrait le penser. La vérité est toujours au ciel. Sur la terre, nous n'avons que des images. Donc Moïse, dans son esprit, a vu dans le ciel la réalité qu'il a reproduite sur la terre tant bien que mal. Tant bien que mal, selon les capacités humaines et donc limitées des artisans à qui ce travail a été confié, même s'il s'agissait des meilleurs. Et donc, par exemple, les différentes sortes de tissus et de peaux pour la couverture du tabernacle, il y avait des peaux de chèvre, des peaux de dauphin, par exemple, tout ça, c'était bien une ombre, et encore bien pâle, de la splendeur du sanctuaire céleste dans lequel le Christ remplit aujourd'hui son office de souverain sacrificateur. C'est ce que dit, en d'autres mots, le dernier verset de notre passage, le verset 6. « Mais maintenant, le Seigneur Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » La supériorité ou la prééminence du sacerdoce de Jésus se mesure au fait qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. Plus excellente que quoi? Eh bien que la première. Puisque la première n'a pas permis aux Israélites, qui avaient pourtant été délivrés de l'esclavage de l'Égypte, d'entrer dans le pays promis, Canaan, le pays du repos. L'Alliance nouvelle nous permet d'entrer aujourd'hui dans ce repos, dans le repos de Dieu. La première alliance, comme il est dit au verset suivant, verset 7, n'était donc pas sans défaut. Et là, il ne faut pas comprendre que Dieu aurait donné au peuple quelque chose qui était défectueux. Quand nous parlons d'une machine défectueuse, le four de la cuisine qui est défectueux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Il ne chauffe plus suffisamment pour dorer la belle tarte aux pommes. Mais la première alliance que Dieu a donnée à Israël, elle fonctionnait parfaitement, si on peut parler comme ça. Exactement comme Dieu l'avait prévu. Elle a parfaitement rempli son office de première alliance. Mais c'est seulement si on la compare, hein, si on la compare à la deuxième, qu'on en fait ressortir des défauts, c'est-à-dire ce qui lui manque. Ce qui lui manque, pour quoi faire? Dans quel but? Eh bien, ce qui lui manque pour permettre l'accomplissement des promesses de Dieu. Avec la première alliance, entre autres le sacerdoce lévitique, on a déjà fait un bout de chemin. Avec la seconde, la nouvelle alliance, on doit marcher encore un bout, certes, mais on a la certitude d'arriver à destination. Si on reste dans la première, comme les Juifs qui rejettent toujours le Christ en tant que leur Messie, on ne peut jamais arriver au but. On reste dans le désert, en fait. Oui, c'est ça. Les Juifs ne sont jamais sortis de leur traversée du désert. Ils continuent à tourner en rond. Et c'est toujours pour le même motif qu'il y a bientôt 3500 ans. Motif que l'auteur de notre épître avait souligné à plusieurs reprises au chapitre 3 et 4. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. » Un peuple au cou raide. Et il n'y a rien à faire. En 2018, c'est pareil. Les gens qui ont un cou raide, un cœur endurci, si le Seigneur ne vient pas lui-même les briser, ils sont incapables de rentrer dans cette seconde alliance, incapables d'obtenir les bénédictions contenues dans les promesses de Dieu. Et en fait, si vous n'entrez pas dans l'alliance nouvelle inaugurée par le Christ, vous passez votre temps à tourner en rond. Votre vie n'a aucun sens, si ce n'est qu'un sens purement matériel. Votre horizon s'arrête à ce qui est sensible, purement terrestre, tandis que vous imposez à votre âme une diète dont elle se passerait bien. Oui, vous contraignez votre âme à un jeûne cruel. Et en refusant de nourrir votre âme, c'est tout votre être qui en souffre, qui en subit les conséquences. La première de ces conséquences, la pire, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, puisque vous n'avez pas donné votre vie à son Fils bien-aimé. J'espère qu'en écoutant ces paroles, vous vous reconnaissez dans quel camp vous êtes, n'est-ce pas? Non, vous ne connaissez pas Dieu. Et là, chers frères et sœurs, je vous demande d'être bien attentifs à ce que je dis ici. Non, nous ne connaissons pas réellement Dieu si nous ne soupirons pas à la vie céleste. Si nous ne réalisons pas, si nous ne réalisons pas bien que les choses du monde sont passagères et que les célestes sont éternels. N'endurcissez pas vos cœurs. Dans les versets 4 et 5, il était dit que Jésus ne pourrait pas exercer son ministère de souverain sacrificateur sur la terre, parce qu'alors il lui faudrait présenter les offrandes selon la loi. Sous-entendu, selon la loi donnée à Moïse. Il s'agit des lois cérémonielles qui incluent les sacrifices d'animaux. Nous l'avions déjà compris, le Seigneur Jésus ne remplit pas un ministère terrestre, mais un ministère céleste, spirituel. Par son unique sacrifice sur la croix, le Fils de Dieu ne nous a pas obtenu le salut de nos corps, mais de nos âmes. Alors attention, je ne suis pas en train de séparer catégoriquement notre corps et notre âme, mais simplement de faire une distinction. Dans notre vie de chrétien, nous devons bien nous garder de penser que l'esprit c'est bien et le corps c'est mal, ou pas important, ou que nous ne devons nous préoccuper que de notre âme et négliger notre corps, ou bien que les péchés du corps n'ont aucune importance pourvu que notre âme soit sauvée. Tout ça, bien sûr, va complètement à l'encontre de l'enseignement biblique. Donc ce n'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, quand nous parlons de résurrection, nous parlons bien de la résurrection des corps. Et puisque Dieu a fait l'un et l'autre, et l'âme et le corps, c'est juste que nous prenions soin de l'un et de l'autre. Malheureusement, nous voyons bien que, de manière générale, nos contemporains ont presque totalement délaissé le soin de leur âme pour se préoccuper jusqu'à l'obsession de leur corps. C'est ce que je disais il y a un instant. Ils contraignent leur âme à un jeûne constant qu'ils seraient incapables de tenir 2 jours s'il s'agissait de leur ventre. Et ça, c'est un déséquilibre qui est préjudiciable à la société tout entière. Pas seulement à eux-mêmes, mais à la société tout entière. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais donc, pour revenir au ministère céleste du Seigneur Jésus et au salut qu'il nous accorde, l'apôtre Paul le dit bien. Notre corps, avec les années, se détruit inexorablement. Il retourne à la poussière, comme l'Écriture sainte l'a toujours dit depuis les premières pages, les premiers chapitres de la Bible. Genèse 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc en fait, ce que Paul disait, c'était ceci. Alors que notre corps est en train de retourner à la poussière, notre être intérieur, quant à lui, si nous sommes en Christ, se renouvelle de jour en jour. Le psalmiste, au psaume 73, verset 26, disait déjà quelque chose d'un peu semblable. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Christ qui détient un sacerdoce spirituel. Il n'aurait servi à rien qu'il remplisse un ministère terrestre selon la loi de Moïse. Parce que tous ceux qui l'ont fait ont exercé un culte, comme le dit le verset 5, qui n'était que l'image et l'ombre des choses à venir. Et en cela, on doit bien se dire que personne n'a été trompé, qu'il y a eu ce culte qui n'était qu'une image, qu'une ombre. Je veux dire que Moïse savait que le culte qu'il rendait à Dieu n'était pas encore la perfection, parce que c'était des cérémonies essentiellement formalistes, dont les ordonnances étaient astreignantes et difficiles à suivre. Et comme on l'a déjà dit, le modèle qui a été donné à Moïse était au ciel, tandis que sur la terre, on n'en avait que l'image, que l'ombre. C'est de nouveau cette parole de l'évangile de Jean, premier chapitre, verset 17, qu'on avait déjà cité il y a quelque temps, « Car la loi a été donnée par Moïse. » Donc la loi que Dieu a donnée au peuple, il l'a reçue, le peuple, par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Petite parenthèse, on voit bien dans ce verset 17 de Jean là, qu'autant Moïse que le Seigneur Jésus sont médiateurs. Moïse pour la première alliance, le Seigneur Jésus pour la deuxième, celle qui est plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et on arrive comme ça au verset 7, qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Et là, si nous résumons, le sanctuaire et le culte de la première alliance n'ont pas pu conduire le peuple d'Israël à la sainteté. Ils n'ont pas pu les élever à une vie spirituelle, c'est-à-dire dans une vraie connaissance de Dieu. La raison, nous la connaissons, c'est à cause de leur péché qu'ils en ont été incapables. Et en fait, en y réfléchissant, le sanctuaire et le culte de la première alliance devaient justement conduire les Israélites, ou auraient dû les conduire, au sanctuaire et au culte de la seconde alliance, de la nouvelle. Et ça, bien sûr, ça nous rappelle des paroles de l'apôtre Paul qu'on trouve au chapitre 3 de l'épître aux Galates, quand il pose la question « Pourquoi donc la loi ?» Et il répond, Paul, entre autres choses, « Que la loi a été donnée à cause des transgressions, qu'avant que la loi vienne, nous étions enfermés, pardon, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi, dit Paul, a été comme un précepteur, comme un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, c'est toujours Paul qui parle, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Il n'y a pas de doute, ce sont là vraiment de meilleures promesses. Et on continue, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle, etc. » Pourquoi l'auteur de la lettre souligne-t-il cette question de blâme ou de reproche ? Oui, quand le Seigneur annonce à Israël que bientôt il fera avec Israël et avec Juda une alliance nouvelle, c'est une information plutôt enthousiasmante. Alors pourquoi faut-il y ajouter des reproches ? Surtout que manifestement, le sanctuaire et le culte de la première alliance, comme on l'a dit, ne pouvaient pas conduire les Israélites à la sainteté, à une vie paisible et harmonieuse avec Dieu. Mais en plus, Dieu n'avait pas institué ce culte et ce sacerdoce dans ce but-là. Alors pourquoi un blâme ? Pourquoi des reproches dans cette annonce de l'Éternel à son peuple ? Cette annonce, on la trouve dans la prophétie de Jérémie, chapitre 31, verset 31 et suivant. Et là, l'Éternel déclare qu'il fera avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Pourquoi des reproches ? Mes amis, la réponse est toute simple et elle nous concerne certainement aussi. Oui, parce qu'elle met le doigt sur une vérité que nous évacuons un peu trop facilement de notre esprit, sous prétexte que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et qu'il nous aime tel que nous sommes. Cette vérité dont il s'agit, c'est que Dieu n'abaisse pas les exigences de sa sainteté au niveau de notre corruption ou de nos dérèglements, quand nous nous laissons aller à pécher. Les exigences de la sainteté de Dieu sont toujours les mêmes, très hautes. Et alors c'est vrai, de toute éternité, Dieu avait décidé qu'il y aurait deux alliances successives. La première qui allait révéler et souligner la corruption et la révolte de l'homme envers son Créateur. La deuxième alliance qui révélerait et ferait éclater la bonté et la miséricorde infinie de ce même Dieu. Et il est donc tout à fait naturel que le Seigneur ait annoncé à son peuple d'Israël, la venue d'une alliance nouvelle, avec l'expression d'un blâme. Parce que cette seconde alliance intervient après que la première ait mis en évidence la totale incapacité de l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Incapable de lui être agréable par ses propres forces, par son esprit, tout simplement parce qu'il est embourbé dans son péché. Péché dont Dieu tient l'homme comme responsable. Puisque naturellement et consécutivement à la chute de nos premiers parents, l'homme, nous aussi, ça a un peu changé, mais l'homme se plaît à ignorer et même à se rebeller contre les commandements de Dieu. Le verset 9 apporte cette réponse que nous venons de faire. Quand l'Éternel dit que l'alliance nouvelle ne sera pas comme la première, il donne comme raison que les Israélites n'ont pas persévéré dans cette alliance-là. Et donc, avec le temps, l'alliance est devenue caduque, près de disparaître, dit la fin du verset 13. Deuxième partie du verset 9, « Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Alors ici, la traduction seconde n'est peut-être pas très bonne. Elle nous laisse penser qu'il y avait deux raisons pour lesquelles Dieu a fait intervenir une alliance nouvelle. La première, c'est donc la désobéissance des Israélites. Et là, on dirait qu'il y a une deuxième raison, que le Seigneur Dieu ne s'était pas soucié de son peuple durant la première alliance. Il ne s'en est pas soucié, bien sûr, à cause de leur péché. En fait, il aurait été plus correct de traduire, comme la version Martin, « Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. » Le psaume 78, versets 58 et 59, qui parle de la même réalité, dit que les tribus d'Israël irritèrent Dieu, qu'elles excitèrent sa jalousie, et qu'alors il repoussa fortement Israël. Non, les deux seules raisons pour lesquelles le Seigneur a institué une nouvelle alliance, et on s'arrêtera pour aujourd'hui, c'est premièrement l'échec de son peuple d'Israël, pas l'échec de la première alliance, l'échec de son peuple d'Israël à honorer les clauses de cette première alliance. Et deuxièmement, son infinie bonté et son amour incomparable envers un peuple de toute nation, de toute langue. Un peuple qu'il a choisi de sauver par sa grâce dans le seul but que ce peuple le glorifie. Et comment sommes-nous appelés à glorifier notre Père Céleste? Au travers de notre obéissance à ses commandements. Ou bien, en d'autres mots, par l'amour saint et véritable que nous entretenons entre nous, membres de la même famille de Dieu, membres d'un même corps, le corps du Christ. Amen.